Eh bien, chers amis, nous allons ouvrir notre Bible dans Genèse 12 pour relire les versets 10 à 20. Genèse 12, versets 10 à 20, et les 13 premiers versets du chapitre 13. Genèse 12, 10 à 20, et 13, 1 à 13. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme !» Et ils me tueront, te laisseront la vie. Dis-je, te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens dirent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi tu dis c'est ma sœur? Aussi je l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la, va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de la renvoyer, lui et sa femme avec tout ce qui lui appartenait. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, tout ce qui lui appartenait, Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs, des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux, vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers leur bien, et c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Dans l'Épître aux Hébreux, vers laquelle nous tournons souvent dans cette série, nous lisons au chapitre 11, Hébreux chapitre 11, les versets 24 à 27. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Dans notre première série de réflexions, début décembre, nous avons considérer quatre des principes fondamentaux concernant la foi. Quatre des six principes d'une foi authentique. Nous avons donc considéré ce que nous pourrions appeler la doctrine de la foi. Et il était important que nous allions plus loin pour que la doctrine de la foi s'incarne dans la vie quotidienne de ce père des croyants qu'est Abraham, de manière à ce que nous puissions aussi comprendre comment pratiquer ces caractéristiques fondamentales dans notre vie de tous les jours. Et c'est pourquoi, donc, depuis avant-hier soir, nous voyons la pratique de la foi. Ce processus de croissance de la foi, plus particulièrement pour nous dans les chapitres 12 et 13 du livre de la Genèse. Et simplement, en ce qui concerne les deux dernières principales caractéristiques de la foi, nous les incluons dans notre enseignement d'ici cet après-midi. Nous avons déjà vu la cinquième caractéristique, la foi patiente et persévère jusqu'à l'accomplissement des promesses de Dieu. Et nous verrons la sixième caractéristique fondamentale cet après-midi dans notre conclusion, puisqu'elle collera admirablement aussi avec la conclusion du chapitre 13 de ce que nous étudions. Nous nous sommes penchés sur le premier test de la foi dans la vie d'Abraham. Comment cela a-t-il commencé pour lui dans la pratique? Nous avions vu la naissance de la foi. Et comment, dès l'aube de la foi, dans ses toutes premières caractéristiques, il y avait déjà des scories. Par exemple, le père, Térakh, qui était là dans le voyage et qui a considérablement freiné l'aube de la foi dans la vie du fils Abraham. Et comment il y a eu une première séparation avant même qu'Abraham ne soit entré dans le pays de la promesse. Et puis nous avons remarqué hier soir, et en partie aussi avant-hier soir, qu'il y eut une famine dans le pays. La famine. Cette épreuve, qui pour nous aussi est difficile à vivre, parce qu'il y a aussi dans nos vies, après la première exaltation, après la période des sentiments très forts concernant notre relation avec le Seigneur, il y a aussi le problème de la sécheresse intérieure, une fois le temps de l'exaltation passé. Et cette crise dans laquelle nous entrons si facilement, cette manière dont nous sommes troublés parce que nous croyons perdre la foi au moment où précisément Dieu veut la développer. C'est Georges Müller, cet exemple en matière de pratique de la foi, qui disait ceci: Dieu prend plaisir à augmenter la foi de ses enfants. Au lieu de vouloir nous épargner l'épreuve et l'exercice de patience avant la victoire, soyons prêts à les accepter de la main de Dieu comme des moyens nécessaires. Je le dis délibérément, les épreuves, les obstacles, les difficultés et quelquefois même les défaites ne font que nourrir la foi. Et nous en avons l'admirable démonstration, puisque la deuxième partie du chapitre 12 de la Genèse n'est rien d'autre, disons-le franchement, qu'une défaite dans cette foi au seuil, à l'aurore de son développement. Alors nous avons essayé de considérer la réaction d'Abraham hier soir, la manière dont il succombe à la pression des circonstances contraires, la manière dont il redevient autonome, indépendant, raisonnable. Nous avons dit rationaliste, humaniste, c'est-à-dire agissant comme si Dieu n'existait pas tout en prétendant croire en lui. Lui, le père des croyants, oui, lui, n'a pas échappé à ce piège. Et puis nous avons vu les conséquences de ce choix d'une voie facile, dans laquelle il décide de ne pas apprendre à vivre dans la disette, selon ce qui est écrit dans Philippiens au chapitre 4. Quelles sont les conséquences? Nous les avons appelées sentiments de peur, insécurité, inquiétude, angoisse, utilisation de débrouilles, de combines, de magouilles, de bricolage, dans le demi-mensonge. Et nous nous sommes longuement penchés sur ces mécanismes du demi-mensonge dans nos propres vies. Et nous avons constaté que dans l'utilisation de ce qu'on peut appeler une casuistique, cette manière d'avoir de la restriction mentale, de dire une vérité alors que l'on sait très bien qu'un mensonge se cache derrière, dans l'utilisation de cette subtilité casuistique à la mode des jésuites, tout se complique dans notre vie d'enfant de Dieu, alors que tout devrait pourtant être si simple. Nous avons évoqué ces mensonges que nous érigeons en principe de vie parce que nous avons été éduqués comme ça, parce que peut-être nos parents ont pratiqué de cette manière, parce que peut-être la culture à laquelle nous appartenons a ces principes et que nous n'avons pas encore réussi dans notre vie à faire la distinction entre les principes de notre culture et ce qui est valable de la parole de Dieu. Et il arrive que dans notre vie, nous ayons tendance à avoir beaucoup de peine à dissocier notre culture de ce que disent les Écritures. Nous avons la peine à faire la part des choses dans notre vie entre ce qui appartient à une culture qui est polluée par le péché et entre ce que dit la parole de Dieu. C'était là un des problèmes d'Abraham. Nous allons plus loin ce matin pour dire que Abraham ne peut refuser dans cette situation les cadeaux, entre guillemets, que le monde lui offre. Vous avez remarqué le verset 16. Il nous a dit que Pharaon traita bien Abraham ou le traita avec bonté à cause de Sarai. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des errantes, des ânesses et des chameaux. Voilà donc notre homme comblé matériellement. Et nous devrions nous méfier, mes bien-aimés, quand le monde commence à se montrer trop gentil dans ses rapports avec nous. Quand le monde commence à nous sourire. Quand il se sent trop bien avec nous. Nous devrions sérieusement nous poser un certain nombre de questions. Est-ce que le monde n'est pas en train de nous faire la cour? Est-ce qu'il n'est pas en train de nous jeter de la poudre aux yeux? Parce qu'il faut le dire, c'est de la poudre aux yeux. L'ennemi sait fort bien payer notre allégeance en monnaie de singe. Parce que la richesse d'Abraham, nous allons le voir par la suite, en réalité n'était qu'une monnaie de singe. Et faut-il ajouter ici que nous avons une fois de plus la preuve, et nous ne faisons qu'enfoncer le clou depuis avant-hier soir, comme quoi la richesse matérielle chez le croyant n'est pas obligatoirement preuve de bénédiction de Dieu. En l'occurrence, la richesse matérielle ici, chez Abraham, le père des croyants, n'est qu'un signe de son incrédulité. De quoi, une fois de plus, jeter un pavé dans la mare des croyants à l'équation trop facile concernant les bénédictions matérielles dans leur vie. Voilà donc un homme qui est comblé matériellement, mais terriblement pauvre spirituellement. Le désert du Néguev, ce plateau sec, aride, inhospitalier, a fait place au désert intérieur. En Égypte, il connaît les canaux, les oignons et les eaux, et tout le reste. Un véritable jardin très fertile, grâce aux alluvions du Nil. Mais il connaît le désert intérieur. Il n'a plus de vraie joie, il n'a plus de paix, il n'a plus de repos du cœur. On lui a même enlevé sa femme. Il n'a plus de sécurité. Il n'a plus d'approbation de Dieu. Peut-être même est-il installé dans une annexe de palais de Pharaon. Il a plié sa tente. Plus de disponibilité, plus d'obéissance. Il n'y a plus d'autel, plus de vie de prière. Plus d'adoration, plus de possibilité de revendiquer un territoire pour le Seigneur, parce qu'il n'est plus dans le territoire de la foi. Et il n'y a plus de promesse de Dieu. Dieu ne se révèle plus. Dieu ne peut plus l'encourager. Dieu ne peut plus lui montrer quels sont ses noms nouveaux qui annoncent la bonté de sa personne. Ni promesse de Dieu, ni tente, ni autel, il n'y a plus ce trépied de la vie chrétienne qui est une des caractéristiques de la vie d'Abraham, le croyant obéissant. Abraham n'expérimente rien de la fidélité du Dieu de l'impossible. Rien des délivrances extraordinaires de Dieu, tout simplement parce qu'il a pris une assurance vie. Son assurance vie s'appelle Sarah. Voilà son passeport pour éviter d'être mis à mort. Sa foi n'est ni fortifiée ni enrichie. Et vous avez remarqué comment nous avons lu tout à l'heure Hébreux chapitre 11, versets 24 à 27. Pour souligner le contraste entre Abraham, le père des croyants, et l'un de ses enfants, entre guillemets, quelques cinq siècles plus tard, Moïse. Moïse qui lui fera le chemin dans le sens inverse, qui préférera être maltraité là où Abraham est bien traité, qui préférera être maltraité désirant s'identifier de tout son cœur au peuple de Dieu, désirant être dans le plan de Dieu, préférant, comme le dit le texte, l'opprobre de Christ, la souffrance liée à la fidélité à Christ, plutôt que de connaître la joie éphémère et la puissance éphémère liée à la possession des richesses et de la gloire de Pharaon. Deux hommes de Dieu à cinq siècles d'intervalle, qui vivent une expérience diamétralement opposée. L'un qui accepte d'être comblé des richesses de ce monde et qui y perd sa joie, qui y perd sa paix, qui y perd son efficacité, qui y perd la possibilité de grandir avec le Seigneur, sa vision de Dieu, etc. L'autre au contraire, qui quitte ses richesses, ce standing, ce statut et cette gloire de l'Égypte, pour s'identifier au peuple de Dieu et à son chef, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ, qui a subi l'opprobre jusqu'à la mort de la croix. Cela devrait nous faire réfléchir, n'est-ce pas? Quant à nos choix, il se pourrait que, en ce moment même, il y ait parmi nous quelqu'un qui se sente interpellé, à qui Dieu est en train de dire, mais tu vois, tu as cru faire le bon choix. Tu as succombé à cette cour du monde. Tu as cru que ce qu'il t'offrait était valable. Tu as cru que tu pourrais vivre à la fois dans les deux camps, celui de Dieu et celui de ce monde. Et maintenant, tu es en train de te rendre compte que ce que le monde offre, c'est du toc. D'ailleurs, nous verrons que c'est pire que du toc. Et cela vient. Nous le verrons un peu plus tard. Heureusement, Dieu se sert d'un païen absolument scandalisé pour le ramener à l'ordre et le remettre sur la bonne voie. Tant il est vrai que même aujourd'hui, en 1994, alors que notre monde s'enfonce dans la décomposition putride du péché, comme jamais auparavant, il est encore aujourd'hui de ces pharaons dont Dieu se sert. Parce que parfois, même sans Dieu, à certains moments de leur existence, leur morale est supérieure à celle de certains enfants de Dieu. Disons-le franchement. Et scandalisés, ils nous rappellent à l'ordre. Et Dieu a une pédagogie toute particulière pour se servir des païens, pour nous rappeler à l'ordre. Vous avez remarqué au début du chapitre 12, verset 1er, l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en ». Eh bien, sans le savoir, puisque Pharaon n'a pas été le témoin de cet appel de Dieu à Abraham, Pharaon va reprendre la même expression. Il va lui dire, « Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en ». Un va-t'en répond à un autre va-t'en, comme si Dieu voulait, par le Saint-Esprit, à un moment crucial de l'existence d'Abraham, lui rappeler sa vocation. Quand ce va-t'en a retenti aux oreilles d'Abraham, Dieu a dû vriller dans son cœur un autre va-t'en. Souviens-toi. Souviens-toi, Abraham, que c'est moi qui t'ai appelé. Que c'est moi qui t'ai fait sortir d'une autre Égypte. Ur en Chaldée. 40 dans le nord du pays. C'est moi qui t'ai dit va-t'en. Alors saisis ce message, ce n'est pas Pharaon qui te parle en ce moment, mais c'est moi qui te parle, par le même langage, c'est moi qui te dis ceci. Va-t'en, reviens sur le territoire de la promesse. Et vous savez, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard dans la composition des Écritures. Dieu a présidé dans le moindre détail à la composition de sa parole. Prenez un autre exemple. Je veux parler ici de Jonas. Jonas, chapitre 1er, Jonas, chapitre 1er, verset 2, lorsque l'Éternel lui dit, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et vous savez comment Jonas s'est levé, mais pour présenter son dos à la volonté de Dieu. Et ainsi, il est descendu, lui aussi, comme Abraham. Il est descendu, il est même descendu de plus en plus bas. Verset 3, il descendit à Jaffa. Un peu plus bas encore, donc il s'embarque. Et il nous est dit, au verset 5, à la fin du verset 5, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Il descend. L'un descend en Égypte, l'autre descend dans le bateau, et dans le bateau, il descend dans la grève. Le symbole des Écritures, de toutes nos descentes. Et alors là, au fond de la cale, alors qu'il est enfermé dans son sommeil, que nous dirions-nous aujourd'hui spirituel, il entend subitement, entre deux rêves, le pilote qui le secoue et qui lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi !» Ce « lève-toi » aussi répond au premier « lève-toi ». Dieu est déjà à l'œuvre. Puisque la tempête en elle-même est insuffisante, Dieu utilise par le pilote son propre langage. Elle lui dit « Mais Jonas, ne te souviens-tu pas du premier « lève-toi » que j'ai prononcé ? Celui qui était destiné à t'amener jusqu'à cette immense cité de Ninive, la cruelle, la grande. Maintenant, Jonas, lève-toi. Lève-toi et sors de ta désobéissance. Et c'est à ce moment-là que Jonas va commencer à entrer dans le processus vers le retour dans la volonté de Dieu. Voyez-vous, les voies de la fidélité de Dieu dans le domaine de la grâce, de la miséricorde, sont extraordinaires pour ses enfants. Quand dans l'épreuve de la foi, nous succombons, lorsque nous sommes capables de telles trahisons, ce n'est pas pour autant que Dieu se détourne de nous. Dieu nous parle. Dieu se sert de ses pharaons parce qu'il incline le cœur des rois dans sa main comme des courants d'eau. Il incline le cœur de notre patron, de notre collègue de travail, de tel ou tel de nos professeurs, de notre voisin de palier, de notre conjoint non converti, de tel ou tel de nos enfants. Et il nous rappelle qu'un jour, il nous a appelés à une véritable marche par la foi. Vous avez remarqué, pour ceux qui étaient là hier, comment nous avons lu dans un psaume 105, au verset 7 et suivant, la manière dont Dieu a pris soin de ses enfants, Abraham, Isaac, Jacob. Psaume 105. Il nous a dit au verset 12, ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, étrangers dans le pays. Ils allaient d'une nation à une autre, d'un royaume vers un autre pays. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Que veut dire ce verset sinon qu'il sous-entend la manière dont Dieu contrôle les événements? Dieu contrôle nos situations. Et combien de fois il m'est arrivé dans ma propre vie avec Dieu de dire « Seigneur, je te supplie simplement, sur la base de ta parole, je te supplie de faire une chose. Si jamais je suis en train de m'éloigner de toi dans tel ou tel domaine, Seigneur, s'il te plaît, mets-y le paquet. » Mais tout en œuvre pour me sortir de là. Utilise, Seigneur, l'électrochoc, n'importe quel moyen, vas-y, Seigneur, pour que je ne glisse pas vers une déchéance dont j'aurai à supporter de graves conséquences par la suite. Nous pouvons le demander parce que nous nous appuyons là sur les promesses de Dieu. Dieu a vraiment mobilisé tout son amour pour rappeler à son enfant néophyte dans la foi son appel, sa vocation, afin qu'il soit véritablement le père des croyants. Notre incrédulité, nos défaillances ne sauraient anéantir la fidélité de Dieu. Mais bien aimé, chaque fois que nous sommes appelés à parler du péché, chaque fois que nous sommes appelés à décrire nos problèmes, n'oublions jamais, pour ne pas laisser l'avantage à la puissance des ténèbres, de parler aussi de l'autre côté, de la grâce de Dieu, de sa fidélité, de sa beauté, de son engagement vis-à-vis de ses enfants, parce que Dieu n'est pas un père qui lâche ses enfants comme ça. Dieu est un vrai père. Il n'est pas comme ses pères d'aujourd'hui. Et il fait bon s'en souvenir. Parce qu'il arrive parfois que des enfants de Dieu sont encore plus désespérés. Lorsqu'on insiste sur le péché, sans présenter aussi l'attrait éminent d'un Dieu qui, lui, ne paye pas en monnaie de singe. Et c'est ainsi donc que finalement Abraham revient sur le territoire ou dans le territoire de la promesse, chapitre 13, versets 1 à 4. Il revient. Il remonte, dit le texte. Il était descendu. Il remonte. Oh. En ce qui concerne la géographie physique de cette région, de ces quelques 400 kilomètres qui séparaient, et qui séparent encore d'ailleurs l'Égypte du Néguer, cette remontée n'est pas fantastique. Puisque sur 400 kilomètres, cela ne représente environ que 100 mètres de dénivellation. Sur 400 kilomètres. Comme si, en réalité, Dieu voulait donner un autre message que simplement le message physique. Il faut toujours remonter. Lorsque nous sommes descendus, nous savons que quelqu'un est descendu plus bas que nous, dans la mort sur la croix, pour nous rejoindre là où nous sommes capables de descendre dans notre péché. Et alors, on remonte avec lui, par sa grâce, par le Saint-Esprit. Il nous hisse dans son amour. Et nous remontons d'Égypte vers le midi. D'Égypte vers le midi. Nous remontons, disons-le quand même, avec tout ce qui nous appartient, avec Lot, et aussi avec notre richesse en troupeau, en argent et en or. Et c'est là que ça se garde. Le texte dit très exactement, Abraham était très lourd en troupeau, en argent et en or. Nous remontons très lourd. Encombré. Abraham était un homme encombré quand il est remonté. Même s'il avait obtenu le pardon de Dieu. Même si la grâce de Dieu s'était exercée dans sa vie, il n'en est pas moins remonté encombré. Parce que la grâce de Dieu n'efface jamais toutes les conséquences de nos incrédulités. Et c'est là aussi un des enseignements essentiels de la parole de Dieu. Si la grâce de Dieu allait jusqu'à effacer, supprimer toutes les inconséquences, toutes les incohérences de nos incrédulités, il est vrai que nous n'apprendrions jamais rien. Il est vrai que nous referions continuellement les mêmes erreurs. Il est vrai que nous serions terriblement tentés d'abuser de la grâce. Et Dieu ne veut pas que nous tournions sa grâce en dissolution. C'était là le reproche que l'apôtre Paul faisait à certains croyants à Rome. Je dis qu'il est encombré parce que toute la suite de l'histoire va le prouver. Il y a tout d'abord le verset 6 qui le prouve. Leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Et oui, le séjour en Égypte a fait fructifier le patrimoine d'Abraham et de son neveu Lot. Et maintenant, c'est l'encombrement parce que le territoire en terre promise est bien moindre que les vastes plaines alluvionnaires du delta du Nil. Il faut gérer une toute nouvelle situation. Et si ce n'était encore que cela, mais ça va encore beaucoup plus loin, puisque au chapitre 16, il nous est dit, que Sarai, femme d'Abraham, verset 1er, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. C'est-à-dire que dans cette lourdeur, dans cet encombrement, figure l'un de ces cadeaux empoisonnés de l'incrédulité. Agar. Agar dont on n'entendra plus parler pendant 10 ans. Pendant 10 ans, nous avons là un péché qui dort, une sorte de séropositivité, sans qu'un sida spirituel ne se déclare. On est malade sans être malade. On est atteint, mais il n'y a pas d'effet. Et il va falloir attendre 10 ans. Pour que dans une certaine situation de tension liée à la durée, liée à l'impatience de Sarah qui vieillit inexorablement, alors subitement toutes les conditions climatiques soient réunies pour que cette séropositivité se transforme en maladie déclarée. Et mes amis, ceci devrait aussi nous interpeller. Nous pensons parfois nous en sortir à bon compte lorsque nous tombons dans l'infidélité. Nous disons, Seigneur, je te remercie pour la grâce que tu m'accordes. Je te remercie pour ton pardon. Je te remercie de ce que je puisse remonter de l'Égypte vers le Midi. Et puis nous glissons si vite à nouveau dans la désobéissance, parce que nous avons l'impression que nous en sommes sortis, après tout, à peu près bien. La facture n'était pas trop salée à payer. Oui, mais attention, il est des factures qui se payent 10 ans plus tard. Il est des biens mal acquis, dit le livre des Proverbes, qui ne profitent pas à la personne à la fin. Elle va pouvoir jouir de ses biens pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais parce qu'ils ont été mal acquis, il arrive un moment où les conséquences vont devoir être payées. C'est un enseignement de la parole de Dieu. Vous voyez le problème d'une abondance non voulue de Dieu. Vous voyez le problème du péché d'incrédulité qui, même lorsqu'il est confessé, laisse des traces et engendre parfois des conséquences à long terme. Dans le domaine du mariage, dans le domaine de l'exercice de la profession, dans le domaine des perturbations dans la sexualité, dans le domaine de la gestion des biens, de leur acquisition. Voilà de quoi nous faire réfléchir. C'est un avertissement pour que nous ne soyons pas tentés d'abuser de la grâce. Et puis, disons-le aussi, Abraham a perdu du temps. Il doit revenir au point où il a quitté la voie de Dieu pour le chemin du monde. Et il y a une sorte d'insistance dans le texte, dans les versets 3 et 4. Il dirigea ses marches du Midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Ali, au lieu où était l'hôtel qu'il avait fait précédemment. Vous avez vu combien c'est du mauvais français tout ça? Combien Dieu est peu préoccupé de la syntaxe, du style, du vocabulaire, des lourdeurs. Parce qu'en bon pédagogue, il veut choquer. Il veut frapper. Et ici, ce que Dieu veut dire, mais constate mon enfant, toi qui lis ce texte, constate combien combien Abraham avait perdu de temps, combien il lui fallait revenir à l'endroit qu'il avait quitté, il fallait revenir à Bethel. Bethel, qui portait un autre nom, mais qui plus tard s'appellera Bethel, qui signifie maison de Dieu. C'est-à-dire communion avec Dieu. Il faut revenir à Bethel quand on s'est enfoncé dans le désert de l'incrédulité. Lorsqu'on a succombé aux pressions de la famine, il faut revenir à Bethel, il faut revenir à la communion avec Dieu. Et le texte original dit qu'il dirigea ses marches étape après étape en quelque sorte. Il nécessite du temps. Si vous lisez le petit prophète Agée, vous verrez que le réveil de Juda après l'exil, lors de la reconstruction du temple à Jérusalem, s'est fait en plusieurs étapes. Il a fallu des semaines et des semaines pour que peu à peu certains problèmes soient réglés. Et il est arrivé un moment où, par la bouche du prophète Agée, Dieu dit « Ben, à partir de maintenant, à partir de ce jour, je donnerai ma bénédiction. » Alors que le peuple s'est déjà remis au travail. Il a reçu à nouveau les promesses de Dieu. Le temple est à nouveau en cours de reconstruction. Et Dieu dit bien plus tard, quelques semaines plus tard, maintenant seulement, maintenant, je vais pouvoir à nouveau bénir. Parce qu'il y a des étapes. Retrouver le premier amour, retrouver la joie dans la présence de Dieu, retrouver, je dirais, une vie de prière fluide, une facilité dans le partage avec Dieu. Retrouver une lecture de la parole de Dieu aisée, retrouver une joie dans la présence de Dieu, ça ne se fait pas comme ça. C'est exactement le même problème que lorsqu'on se cache une jambe ou un autre membre. Plus longtemps, le membre aura été immobilisé dans le plâtre, plus il faudra de séances de rééducation et de travail jusqu'à ce que la motricité soit pleinement récupérée. Il en est de même dans tout recul au niveau de la marche par la foi. Apocalypse 2:5, souviens-toi d'où tu es tombé. Et le temps utilisé dans Apocalypse 2:5 sous-entend souviens-toi d'où tu es tombé graduellement, peu à peu. Pas d'un coup, peu à peu. Et il faut revenir peu à peu aussi à l'endroit, à l'état, à la situation que l'on a quitté. Il n'y a pas de raccourci dans une vraie repentance. Voilà quelques éléments d'enseignement de ces versets 10 à 20 et 1 à 4 de Genèse 12 et 13. Nous faisons un pas de plus maintenant pour utiliser quelques minutes encore à voir le début de la deuxième épreuve dans la foi toute jeune d'Abraham. Ça ne tarde pas. Il n'y a guère de répit. Cette foi qui vient d'être mise à l'épreuve au plan matériel, dans le domaine économique, de la subsistance de tous les jours, du salaire mensuel, eh bien cette foi doit être maintenant mise à l'épreuve dans les relations avec le prochain. Parce que la mise à l'épreuve de notre foi doit toucher tous les domaines de notre foi. Alors de temps en temps, Dieu travaille dans le domaine matériel, puis il nous laisse en répit dans le domaine matériel, et il se met à travailler dans le domaine de nos relations les uns avec les autres, par exemple. Nous avons vu qu'Abraham doit apprendre à compter sur Dieu en ce qui concerne les biens matériels. Ça, c'est la grande leçon. Quand Abraham arrive à nouveau dans le territoire promis, il y a quelque chose qui est inscrit dans son cœur. Je dois absolument apprendre à dépendre de toi, Seigneur, dans le domaine matériel, même si j'ai un salaire qui tombe chaque mois. Même si j'ai pour le moment un métier, même si je touche encore des allocations chômage, même si j'ai droit à une bourse en tant qu'étudiant, Seigneur, je dois apprendre à gérer avec toi, à marcher par la foi aussi, en reconnaissant que l'or et l'argent t'appartiennent, que rien n'est problème pour toi, et que dans ta souveraineté parfaite et jamais arbitraire, tu peux effectivement fermer le robinet pour m'apprendre à dépendre de toi. À 40, Dieu, certains s'en souviennent, avait rompu un lien qui a empêché Abraham d'aller vers la bénédiction. Ce lien, c'était le papa, qui n'avait pas renoncé à ses dieux, qui semblait même avoir pris l'initiative du pèlerinage sur la route du Saint-Jacques de Compostelle de l'époque pour se rendre à 40. En vendant ses petites statuettes, il a fallu la mort du père pour que le fils redémarre et entre dans la tête de la promesse. Ça, nous l'avions en décembre. Mais maintenant à Bethel, Dieu va rompre un second lien. Il va y avoir une seconde séparation afin qu'il n'y ait plus d'entrave à la bénédiction et qu'Abraham véritablement vive entièrement pour lui. Mais cette nouvelle rupture, et je l'annonce, elle nous intéressera fortement cet après-midi, cette nouvelle rupture avec Lot ne doit pas se faire n'importe comment. Ce n'est pas parce que nous sommes lourds, ce n'est pas parce que nous sommes encombrés de dimensions qui n'appartiennent pas à la foi mais au monde, que nous avons la liberté de nous débarrasser de nos scories comme ça n'importe comment, surtout quand c'est un compromis, ce sont des personnes. Je pense à l'erreur qui a souvent été commise sur le champ missionnaire outre-mer. Lorsque certains missionnaires trop zélés n'ont pas toujours mesuré les conséquences de leur prédication et de leurs conseils, disant par exemple à tel homme qui se convertissait au sein de sa tribu dans tel pays d'Afrique, maintenant il faut que tu renvoies toutes tes femmes. Ah certes, c'était là un chemin d'obéissance particulièrement héroïque, mais les missionnaires ne se sont pas rendus compte de ce que sous-entendait comme drame un tel conseil s'il était suivi. Même si l'Africain était encombré au moment où il se convertissait à Jésus-Christ, il ne pouvait pas se débarrasser comme ça, simplement, de son encombrement, en renvoyant ses femmes et en n'en gardant qu'une. Tout simplement parce que n'importe qui parmi nos frères et sœurs africains qui sont ici pourrait dire combien la condition d'une femme renvoyée par son mari, même lorsqu'il possède un certain nombre de femmes, est une condition vile, terrible, qui la dévalorise. D'où la nécessité aussi de trouver cet équilibre biblique qui joint au désir de sainteté un message d'amour, un message de justice, de manière à ce que cette femme puisse se tourner aussi vers Christ. Et depuis, bien des missionnaires et des missions ont rectifié le tir, et tout en restant tout aussi fidèles, on cherchait comment protéger le sort des secondes, troisièmes, quatrièmes, etc. épouses en renvoyées par toutes sortes de moyens pour leur éviter de s'enfoncer dans de terribles esclavages. Alors quand Dieu nous reprend, quand Dieu nous dit « Maurice, tu es lourd », tu es encombré de richesses qui ne sont pas dans mon plan. Est-ce que cela signifie que par obéissance, je vais devoir comme ça renvoyer allègrement, couper des liens de manière dure, brutale? Non. Il faut que certaines séparations se fassent, c'est vrai. Mais elles doivent se faire de manière divine, d'une manière qui glorifie Dieu. Et c'est ce que Abraham, nous le verrons, a su faire au chapitre 13. Comment Abraham va-t-il résoudre le problème qui va se poser à lui? C'est un problème très délicat. Nous l'avons dit, c'est un problème d'ordre humain, d'ordre familial. Et on ne peut pas résoudre ces problèmes comme ça, à coup de guillotine. Et ce problème, disons-le enfin, va servir de révélateur des cœurs. Parce que c'est vrai, les problèmes familiaux, les problèmes relationnels, sont très révélateurs du fond de nos cœurs. Et nous allons ainsi pouvoir découvrir au chapitre 13, à partir du verset 5, ce que nous n'avons pas vu encore jusqu'ici, du caractère d'Abraham d'une part, et de son neveu Lot d'autre part. Il faudra un conflit. Il y a dans ce problème trois facteurs. Trois facteurs, dans les versets 5 à 7, ils sont tout de suite résumés, d'emblée. Et le premier facteur, ce sont les biens. Et c'est vrai que les biens, les richesses, l'immobilier, comme le compte en banque, sont souvent, dans nos vies, y compris dans nos vies chrétiennes, facteurs de problèmes relationnels. Je me souviens du décès de mon propre père. Et aux problèmes qu'il a engendrés pour les quelques miettes que ce papa locataire, et qui avait vécu toute sa vie très humblement, que le partage des miettes de ce qu'il possédait a provoqué dans la famille. Et comment mon épouse et moi, nous avons tenu, dès le départ, à nous maintenir totalement à l'écart de cette situation de type conflictuel. Et nous avons béni Dieu de nous être tenus à l'écart parce que d'autres y ont perdu des plus. Mes amis, même parfois, les enfants de Dieu, les croyants authentiques, quand ils sont au pied d'un lit, où l'un des leurs agonise, sont capables d'avoir des pensées odieuses concernant l'héritage. S'il y a un endroit où les cœurs se révèlent dans la vie, c'est bien souvent le pied d'un lit de mort qui est révélateur. Dieu avait voulu, par la famine, enseigner Abraham à vivre dans la disette en expérimentant son secours. Maintenant, il veut lui apprendre à vivre dans l'abondance. Eh oui, il faut qu'Abraham apprenne à vivre dans l'abondance. Et nous devons, vous et moi, tour à tour, apprendre à vivre tantôt dans l'abondance, tantôt dans la disette. Et c'est aussi un exercice de la foi. Ah, il y a des moments où ça va bien. Le compte en banque est bien garni. C'est pas évident de gérer ces moments-là. Il y en a d'autres où c'est difficile parce que on voit le fond de la caisse. On est devenu chevalier de la bourse plate. Et on est là aussi tenté par toutes sortes de pis-aller et de trucages. Cet Osaire, cet homme de Dieu, prophète de notre temps au sens biblique du terme, qui disait ceci: il ne fait aucun doute que l'attachement à la possession des choses matérielles constitue l'un des penchants les plus pernicieux de la vie. Et comme il semble si naturel qu'il soit si répandu, il est rarement dénoncé comme un mal. Pourtant, ses effets sont néfastes et tragiques. Cette calamité tenace aussi vieille que l'humanité ne peut être extirpée sans souffrance et sans peine. L'avare coriace que nous abritons tous en nous ne déposera pas les armes et n'acceptera pas de mourir tout simplement en obéissance à un ordre donné. Il doit être extirpé, arraché de notre cœur comme on arrache une plante du sol, extrait dans le sang et la douleur comme on arrache une dent. Il doit être chassé de notre âme comme Christ a expulsé les changeurs de monnaie du temple. Alors, certains d'entre nous diront, mais ça ne me concerne pas. Comment pourrais-je être avare alors que je suis justement en ce moment, précisément, presque le chevalier de la bourse plate? Je suis aux études, je ne gagne aucun salaire, je vis sur une bourse, sur les allocations familiales qui complètent, on se débrouille. C'est pas pour moi ce message, mes amis. J'aimerais vous dire qu'il est pour vous. Parce que la définition de l'avarice ne concerne pas simplement les harpagons qui cachent des coffres dans leur sous-sol et qui comptent les pièces nombreuses qu'ils ont accumulées dans leur existence. Tout le monde n'est pas Père Goriot. L'avarice, c'est parfois disposer des dernières deux pièces d'un franc et de les caresser et de les regarder encore et de leur donner un pouvoir, une vertu toute particulière. L'avarice est encore autre chose. C'est gagner le SMIC, mais de par sa fonction, avoir le plaisir de manipuler beaucoup d'argent. Il est des gens qui travaillent dans des entreprises et qui sont au SMIC ou à peine au-dessus, mais qui, de par leur fonction, sont appelés à gérer beaucoup de sous des autres. Et ils en deviennent cupides. Parce que leur puissance réside simplement dans le fait qu'ils tâtent beaucoup de billets. Il existe une cupidité qui n'est pas dans la possession, mais qui est simplement dans le trafic, dans le passage. Donc vous voyez, que nous le voulions ou non, nous sommes tous concernés, vous et moi, par le problème des richesses. Et ne l'aimons pas parler de fric dans l'Église. Vous savez, dans les quelques 40 thèmes que je propose aux églises dans mes voyages, l'un d'entre eux concerne la gestion des biens matériels. Il s'intitule « Offrez vos sous ». En 14 ans de voyage à travers le monde, ce thème m'a été réclamé peut-être 2 ou 3 fois. C'est curieux ce qu'il gêne aux entournures. Il est des thèmes que l'on m'a réclamé des dizaines de fois. Mais la gestion des biens, tout ce qui touche au portefeuille, aux cicaves, aux assurances et vie et autres, c'est curieux. On n'en parle pas. Il m'est souvent arrivé d'en parler avec mon ami André Adoul, nous avons travaillé ensemble pendant 8 ans. Et vous savez qu'André Adoul a écrit un livre fameux que je vous encourage à lire, Dieu aimé. Mais André Adoul était d'accord avec moi pour reconnaître que c'était un sujet qu'on lui demandait très peu. Vous savez, on est prêt à confesser toutes sortes de péchés dans le domaine de la sexualité, du mensonge, etc. Mais très peu de personnes sont d'accord de dire « Seigneur, je te demande pardon parce que je suis avare. » Et c'est pour cela que, et je termine, Jésus a accordé une importance surprenante à l'argent dans son enseignement. Savez-vous que l'argent est présent d'une façon ou d'une autre dans 1 verset sur 6 des évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc? 1 verset sur 6. Et dans 16 des 38 paraboles du Seigneur Jésus. Jésus considérait qu'il était obligatoire de parler des questions de bien et d'argent. Parce qu'il savait que c'est un des principaux sujets de conversation, c'est un des objets les plus absorbants de la recherche humaine. On ne peut pas rester neutre devant les questions d'argent. Alors cet après-midi, c'est par là que nous commencerons, puisque c'est la base du conflit, de la querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Donc nous dirons encore cet après-midi quelques points, quelques réflexions sur les biens. Nous évoquerons bien sûr les autres facteurs du problème, c'est-à-dire Lot lui-même et les voisins. Nous verrons quelle est la solution divine dans ce conflit, comment on peut résoudre à la gloire de Dieu les conflits de cet ordre. Et puis nous en tirerons une conclusion qui nous permettra de souligner la sixième et dernière des caractéristiques fondamentales de la foi, ceci en particulier à la lumière des versets 14 à 18 du chapitre 13. Nous voulons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons tout d'abord te dire merci pour la manière dont tu t'es occupé jadis d'Abraham, dans son premier échec, dans cette incrédulité qui l'a mené en Égypte. Merci pour l'espérance que tu mets dans nos cœurs lorsque nous voyons comment tu as agi dans le cœur de Pharaon pour que ton serviteur, ton ami Abraham, revienne dans le territoire de la promesse. Seigneur, pour moi, cela est très encourageant. Il y a toujours possibilité de revenir. Et nous pouvons dénoncer le mensonge de la puissance des ténèbres qui nous fait croire que notre situation est désespérée. Elle n'est jamais désespérée à tes yeux. Et puis nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que nous avons entrevu de la seconde épreuve de la foi d'Abraham. Et comment, en progressant, il a pu aussi réagir d'une bonne manière dans un conflit relationnel. Seigneur, merci de nous préparer à l'enseignement de cet après-midi. Et surtout, de nous aider dans notre pratique durant cette semaine, dans notre gestion financière, dans nos relations avec les autres. Seigneur, donne-nous ton secours par le Saint-Esprit lorsque nous sommes testés en vue de la croissance de notre foi dans le domaine du quotidien. Nous voulons te louer, nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer. Nous voulons te dire que nous sommes heureux de t'appartenir et que notre plus profond désir, c'est que beaucoup d'autres puissent quitter les richesses éphémères de ce monde pour connaître la seule richesse sûre qui ne dévalue jamais dans la personne de ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom, ton Dieu.